No hay vida más arrastrada que la del pobre correro, con la picana en la mano, picando al buey delantero.
Mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue sur Aligre FM. Bonsoir Sylvain Berthaud.
Bonsoir Nathalie Perrin.
Vous êtes bien sûr au cœur du tango, la première émission de radio en France sur la culture du tango, le tango au sens large, la danse, la musique, les chanteurs et tant d'autres choses, les balles, les codes de la milonga, etc., etc. C'est la première émission en France sur la meilleure des radios, une des dernières radios libres de France, Aligre FM, qui ne vit, messieurs, dames, que de vos dons. Voilà, nous sommes tous bénévoles. On ne se fait pas acheter par la publicité, donc on a besoin de vous, allez sur notre site, faites des dons qui sont désormais défiscalisables. Voilà, le conseil administratif d'Aligre travaille bien. Eh ben, on est ravis aujourd'hui, Sylvain, de faire une émission, encore une émission coup de cœur, hein, et c'est une émission portrait. Les portraits de quelqu'un qu'on apprécie, un organisateur de balles, digne de ce nom, quelqu'un qui fait des balles originaux. Il a pu nous faire danser sur des musiques sur lesquelles on ne peut plus danser aujourd'hui, à Paris, du moins de manière très difficile. Et c'est
Mathias Tripodi. Bonsoir Mathias Tripodi.
Bonsoir, merci beaucoup pour cette invitation et cette opportunité de...
Merci Mathias.
Merci à vous.
Alors il me revient de faire le portrait de Mathias aujourd'hui, j'en suis ravi. C'est une tâche un peu paradoxale, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas du tout physionomiste. La réalité est que je ne suis pas très attentif aux apparences. Et quand je pense à Mathias finalement, ce qui m'apparaît d'abord c'est dans ma mémoire, c'est sa démarche, sa marche. Une grande marche qui traverse la salle, souvent pour aller mettre la musique, pour aller accueillir les gens. Une marche en équilibre, assez longue, ancrée dans le sol. Voilà, une marche de danseur, en somme. Donc pour un organisateur de bal, déjà, on identifie aussi une autre facette de Mathias Tripodi. Et c'est le premier point qui me marque. La deuxième sensation, le deuxième portrait que je voudrais tracer de lui, c'est l'ambiance qu'il y a autour de lui. Un sourire toujours bienveillant, détendu, amical. On sent cette relation finalement, notamment dans les équipes de musiciens qu'il amène autour de lui dans les balles.
Au Cirque Électrique, hein, on précise que ça se passe à Paris, hein, le bal de Mathias Tripodi au Cirque Électrique à Paris.
Absolument. Et donc, progressivement, dans ce portrait, Mathias, ce que je voudrais évoquer aussi, eh ben, finalement, c'est ce côté pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'en vous connaissant un peu mieux, on a découvert un artiste complet. Alors, quelqu'un qui ne se proclame pas forcément comme artiste, qui reste discret ou modeste dans ses rapports aux autres. Et pourtant, donc on espère que cette émission sera l'occasion d'une belle rencontre avec les auditrices et les auditeurs d'Aligre FM. Bienvenue Mathias dans Au cœur du tango ce soir.
Merci beaucoup.
Comme à notre habitude, on a proposé à Mathias quelques étapes de sa carrière, de ses intérêts, de ses passions. Et on lui a proposé à chaque fois des illustrations musicales de son choix. Ce soir, c'est tout particulier parce qu'il n'y a pas forcément que du tango. Et on reviendra sur ces choix très originaux, très diversifiés, qui, je crois, vous traduisent bien, finalement, dans votre démarche. Mm. Cette première étape, très naturellement, c'est l'origine. Mathias, vous êtes argentin?
Oui, je suis né à Buenos Aires et j'ai grandi là-bas. Et c'est plutôt vers mes 30 ans que j'ai commencé à être plus en Europe qu'en Argentine.
Et pour quelle raison
Et c'était toute une suite de rencontres, oui, des événements qui ont fait que bon, j'ai clôturé certains parcours en Argentine et j'ai commencé à donner suite à des autres inquiétudes plus en Europe. Et ça a marqué cette... ces changements.
Alors, vous avez un parcours assez, assez intéressant, certes de danseur, mais pas que. Vous avez aussi un parcours intellectuel, vous êtes écrivain. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de votre parcours?
Oui, disons, avant tout, il y a un engagement avec les tangos, un lien avec les tangos en général,
oui.
Et aussi, de notre côté, avec les langages, par mes études en linguistique à l'Université de Buenos Aires. Et ce double engagement, en fait, il marque mon parcours depuis le début. J'ai commencé à danser le tango en même temps que j'ai commencé mes études en lettres. Et justement, toutes mes premières pas dans la danse du tango ont été accompagnées par ces séjours à l'Université de Buenos Aires, qui est une université très, très particulière, très ouverte aussi, qui appelle beaucoup à la recherche individuelle et personnelle. Et ce partage entre les tangos et l'université ont marqué finalement mes pas entre les réflexions du langage et la danse.
Donc des études académiques finalement, du tango, en parallèle d'une étude d'études universitaires de linguiste.
Oui, disons
que... C'est déjà une formation initiale atypique.
Il y a eu tout un regard qui s'est forgé à la... université autour du langage et que petit à petit j'ai transposé à ma réflexion sur la danse du tango et à mes expériences au bal.
Alors comme premier choix musical, vous avez choisi un titre d'un orchestre qui nous tient particulièrement à cœur, c'est Osvaldo Pugliese, et avec un titre qui est en rapport avec Buenos Aires, d'où ma question, est-ce que c'est lié à un lieu de résidence, à un lieu du cœur, à un lieu de naissance? C'est Puente Alsina, c'est un quartier de Buenos Aires. C'est une magnifique chanson sur le regret de l'urbanisation qui a défiguré finalement ce quartier, où on évoque un certain nombre d'événements d'ailleurs dramatiques qui s'y sont déroulés aussi, hein, la semaine dramatique de janvier 1919 notamment, qui est évoquée.
Alors pourquoi ce choix?
Bon, c'est un tango qui, il me semble, imprégné des émotions, des images qui nous renvoient à cette ville, qui c'est une ville concrète, mais c'est aussi une ville imaginaire. Et c'est un tango aussi qui parle de ce regard à travers la distance, et quelque chose qui touche beaucoup mon parcours et aussi mon rapport avec les tangos, car justement, ce séjour en Europe, loin de Buenos Aires, il a marqué beaucoup aussi plein de joies et plein de nouveaux questionnements que j'ai pu formuler en s'éloignant
de
cette source.
Oui, tout à fait. Alors, on va écouter ce premier choix musical de notre invité Mathias Tripodi, donc Puente Alsina de Pugliese.
Chanté par...
Ah, c'est à vous de le dire, Sylvain Berthaud.
Jorge Vidal.
Jorge
en 1949. C'était la version de 49.
Un vrai piège. Merci, Armand Gurie.
Maleva, ¿a vagón de la cueva, refugio de ayer. Borro el asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me vio crecer. En la sospechosa quietud de un suburbio, la noche de un turbio drama pasional. Y yo desde entonces el hijo de todos, rodé por el lodo de aquel arrabal. Puente Alsina, que antes fueras mi regazo de un zarpazo, la avenida te alcanzó. Viejo puente, compañero y confidente, sos la marca que en la frente el progreso te ha dejado, el suburbio revelado hasta ayer te defendió. Conocido caricias de madre, tuve un solo padre que fuera el rigor, y llevó en mis venas de sangre maleva, gritando una gleba con crudo rencor. ¿Por qué se lo llevan? Mi barrio, mi todo, yo el hijo del lodo lo vengo a buscar. Mi barrio es mi madre que ya no responde, que digan a dónde la van a enterrar.
Merci Armand Gurie à la technique qui nous a permis d'écouter ce magnifique morceau de Pugliese et de Jorge Vidal. C'est très dur pour quelqu'un qui est de langue française. Voilà, par Pugliese, Puente Alsina. Nous recevons aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Mathias Tripodi, danseur, professeur de tango, linguiste et chorégraphe, et qui anime voilà, à Paris, au Cirque Électrique, une magnifique milonga dans laquelle on a eu le plaisir, nous, de danser notamment sur Piazzolla et encore récemment voilà, avec des musiciens extraordinaires. Alors Puente Alsina, juste quelques lignes hein, pour partager avec nos auditeurs ces quelques paroles de ce morceau. Où est donc mon quartier, mon berceau chéri, où es-tu mon repère, refuge d'autrefois, l'asphalte a effacé en un tour de main le vieux quartier qui me vit naître, etc.
Alors Mathias, dans votre parcours, on part de Buenos Aires, de Puente Alsina, et on va vers l'Europe, donc, comme je disais tout à l'heure. Et dans ce parcours de danseur contemporain, j'ai vu un nom qui m'a fait tout de suite sursauter, Wuppertal. Wuppertal, c'est la résidence, le lieu où travaillait l'immense chorégraphe et danseuse Pina Bausch. Et Pina Bausch et le tango, c'est une longue histoire.
Oui, tout à fait. Et bon, c'était dans mon premier voyage en Europe. J'étais venu suite à l'invitation de certains élèves et des personnes que j'avais rencontrées à Buenos Aires. Et je me trouvais du coup à Wuppertal, j'avais 23 ans, et au bal, j'ai dansé avec des gens, et c'est comme ça que j'ai trouvé quelques danseurs de cette compagnie, tout en ignorant qu'est-ce que c'était cette compagnie, car à cette époque-là, je ne connaissais pas beaucoup la danse contemporaine, ni les noms de Pina. Et c'est comme ça qu'a commencé un lien qui a duré quelques années, et qui m'a permis de plonger un peu vers son univers. Alors, on avait un point en commun, c'était Tete Rusconi, qui était un grand danseur à l'issue des balles sociales de Buenos Aires, et un de ces personnalités qui ont permis de nous transmettre le tango jusqu'à nos jours. Et c'était justement les danseurs que Pina avait rencontrés dans son 12e voyage à Buenos Aires. Et ensuite, les années, ils sont écoulés, eux, ils ont fait quelques projets, et Pina est décédée, Tété aussi. Et cette rencontre que j'ai faite avec les danseurs, il avait comme base voilà, cette connaissance en commune avec Tété.
Mmh. Tété Rusconi, c'était un très grand danseur, effectivement. Pina Bausch l'avait rencontré, elle l'a même fait venir à Wuppertal pour enseigner le tango, y compris à sa propre compagnie, aux danseurs de sa compagnie. Elle a construit un spectacle avec lui, Nourdou, qu'elle a dansé même à Paris avec lui en 97.
Disons, elle a inclus une scène avec du tango dans cet spectacle, qui est une coproduction avec Los Angeles. Et voilà, il a inclus une scène où il y a du tango. Et quand il était en Europe, Pina, elle dansait même un tango sur scène avec lui.
Mmh. Voilà. Magnifique.
Alors, on arrive tranquillement au choix musical numéro 2. Alexander Balanescu, Aria, tiré de l'album Maria T, qui a en effet collaboré avec Pina Bausch, c'est ça?
Voilà, c'est une des morceaux qui est utilisée dans une des pièces de Pina.
Voilà.
D'accord, et c'est pour ça que tu l'as choisi.
Oui, pour illustrer, c'est
magnifique.
Bon, alors vous êtes bien...
C'est un super morceau, on est là plus du tout dans le domaine du tango, on est dans la musique minimaliste, ça évoque aussi bien Michael Nyman ou Philip Glass. Je pense qu'il fait plutôt partie d'ailleurs de l'école de Michael Nyman et de son ambiance. On l'écoute ?
On va l'écouter, vous êtes sur Aligre FM et au cœur du tango. Vous êtes sur Aligre FM, voilà, au cœur du tango. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Mathias Tripodi et on vient d'écouter Aria de Balanescu Quartet 2005. Alors on se disait un petit peu hors antenne, Mathias Tripodi, Ça serait magnifique à danser, non? Pourquoi ce morceau? Revenons un petit peu sur ce choix de morceau que vous...
Bon, c'est un morceau qui me fait penser au travail de Pina et qui, en même temps, comme
de
tous, les
Bausch,
choix,
oui.
tous les choix musicaux de Pina, et chaque morceau qu'elle a choisi avec ses équipes aussi, ils sont chargés de... d'une couleur, d'une valeur esthétique très, très, très profonde, très nette. Ça, c'est toujours des musiques qui nous mettent d'une certaine façon face à nous-mêmes.
Oui, mmh. tout à fait.
Et je pense que le tango et la musique du tango, il a un peu cette même vocation.
Tout à fait.
Donc de là un peu les choix musicaux. Oui. Et pourquoi pas aussi, parce que c'est une musique qui m'inspire beaucoup et pourquoi pas essayer de la danser un jour.
Oui, c'est vraiment une musique de la suspension, hein, et c'est vraiment ça le tango, c'est la suspension, c'est un rapport au temps.
Bon, il y a quelque chose aussi dans ce morceau, que c'est cette superposition des différentes couches, non,
oui.
avec des vitesses et qualités différentes.
Tout à fait.
Et on pourrait dire que le tango lui-même, c'est une forme comme ça, à plusieurs couches, avec plusieurs niveaux.
Tout à fait.
De diverses complexités.
Et de lecture de la musique.
Tout à fait.
On va se promener dans les époques, encore une fois, parce qu'on est passé effectivement là d'une musique du XXe siècle. Et on va sauter une époque, puisque j'ai lu que vous aviez signé la scénographie du programme dans ces bacs au XXIe siècle. Alors là, on passe dans la musique de Jean-Sébastien. Et donc, quelle aventure!
Oui, disons, justement, à l'issue de cette rencontre avec les danseurs d'Épina, et toute une curiosité s'est développée vers la danse contemporaine. Et c'est comme ça que j'ai pu faire plusieurs rencontres dans mes voyages en Europe, et ça enrichit après cette réflexion entre les langages et la danse, et est venue toute une réflexion entre la danse contemporaine et la danse du tango, et toutes ces rencontres, voilà, ils me sont menés parfois à faire des projets chorégraphiques avec des danseurs professionnels, plutôt du monde du ballet ou de la danse contemporaine, et où toujours il avait un lien avec le tango, non? Et finalement, une de ces collaborations, on a un peu débordé, on va dire, les tangos, et ils sont arrivés jusqu'à la musique de Bach, et laquelle elle a plein de points en commun aussi avec les tangos, non? On pourrait mentionner encore plus tard les liens avec Astor Piazzolla.
Oui, bien sûr.
Parfait, on en parlera.
Mais voilà, donc ces rencontres artistiques, il m'est venu l'occasion d'imaginer une forme scénographique pour faire la cohésion des trois créations chorégraphiques différentes. Et du coup...
Avec trois chorégraphes quand même très importants.
Voilà,
Boucher et Merci, qu'on connaît bien.
Merci, c'est la fille de Dominique Merci, c'est Tuffinel de Merci qui a fait une création. Après, Bruno Bouger qui a présenté un travail qui avait avant lui créé. Et après, il avait Martin Schex, qui c'est un ancien danseur du ballet de l'Opéra National de Paris, et qui avait fait aussi une création. Et du coup, comme moi j'ai collaboré à cette époque-là avec ces équipes, j'ai imaginé une structure qui prenait plusieurs positions au long de la soirée, une position différente pour chaque spectacle. Et c'était une forme abstraite, telle comme certains dessins mélodiques des bars qui se transforment au long d'une même création.
Magnifique. Alors très naturellement, pour illustrer finalement cette étape passionnante, c'est la musique de Jean-Sébastien, une musique de danse, une musique écrite, composée pour la danse, puisque c'est la fameuse chaconne, donc qui est tirée de, je reprends mes notes, de la partita numéro 2, donc en ré, pour effectivement au départ un violon baroque. Mais là, ça n'est pas la version que vous avez retenue.
Non, c'est une version au piano qui justement fait la musique d'une des créations de cette soirée.
Et qui est donc la transcription de Busoni, interprétée par Hélène Grimaud.
Donc, voilà.
Qu'on vous propose maintenant d'écouter. Donc Hélène Grimaud qui interprète avec la Philharmonie de Berlin en 2001 la chaconne de Bach.
Troisième choix musical de notre invité aujourd'hui sur Au cœur du tango et sur Aligre FM de Mathias Tripodi. Guri à la technique pour Aligre FM. Vous êtes sur 93.1 dans l'émission Au cœur du tango. Nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui un homme polyvalent, un intellectuel, un artiste, un mélomane, quelqu'un qui fait aussi une très belle milonga sur Paris au Cirque Électrique, c'est Mathias Tripodi. Voilà, c'est notre portrait d'aujourd'hui, sachant que c'est une première émission, Mathias Tripodi. Vous reviendrez avec plaisir avec nous, on l'espère, parce que vous avez plein de projets et qu'on aime vos projets et on voudrait les partager à nos auditeurs. Alors, Sylvain Berthaud.
Mathias Tripodi, nous avons parlé déjà d'une activité de scénographie. Il y a une autre étape dans votre parcours qu'on voulait absolument aborder, c'est Maria de Buenos Aires, l'opéra ou plutôt l'operita d'Astor Piazzolla, Horacio Ferrer, le grand poète. Ça me ramène à des lointains souvenirs. J'avais vu la recréation en France au théâtre de Caen en 2003 avec Sandra Rumolino. C'était une mise en scène d'Alfredo Arias. Il y avait le grand Mosalini. Voilà. Magnifique. Que des bonnes fées autour de spectacle. Et j'ai un souvenir quand même extrêmement surprenant de cette première découverte de l'œuvre. On parle d'opéra ou de petit opéra. C'est en fait une œuvre complètement à la rupture des genres, totalement surréaliste au niveau de l'intrigue et du texte. On s'y perd très très facilement. La musique est également extrêmement perturbante. On se promène dans une sorte de fugue, parfois très classique, parfois extrêmement déstructurée et vraiment dérangeante parfois dans le monde sonore. Et quand j'ai vu le commentaire que vous en faisiez par rapport à la mise en scène que vous en avez signée, j'étais extrêmement surpris et intéressé. Je voudrais, Nathalie, qu'on commence peut-être par lire ces quelques lignes.
Alors, ligne écrite par Mathias, Mathias Tripodi, notre invité. Maria de Buenos Aires est avant tout un geste radical face à la tradition. Ce geste est celui de mener le tango vers d'autres genres et registres, de déconstruire ses symboles pour trouver de nouveaux équilibres, de transposer les éléments du tango vers d'autres domaines. J'ai proposé de m'éloigner des formes habituelles de la représentation et des clichés, pas comme une simple négation, mais comme une conséquence liée au fait de vouloir montrer une autre face de l'univers culturel du tango, celle de s'entrelacer, de l'intime, de l'union de deux personnes, par la tension ou par la fluidité, de la multiplicité des contradictions, de l'abandon, de la fragilité secrète, de se donner à quelqu'un malgré nos histoires et nos tendances, de l'invisibilité produite par l'accumulation.
Magnifique.
Très, très, très belle. Alors, Mathias.
Alors, oui, on a parlé juste avant de ce programme dans ces bars au XXe siècle. C'était un programme produit à l'Opéra National de Reim. Et c'est justement avec l'Opéra National de Reim que, quelques années plus tard, j'ai pu faire cette mise en scène et chorégraphie de Maria de Buenos Aires. C'était une invitation d'Eva Kleinitz, la directrice de l'opéra, et de Bruno Bouget, le directeur du ballet, qui est encore aussi directeur de cette merveilleuse compagnie.
Et pourquoi ce choix, alors
Bon, Eva Kleinitz, elle avait travaillé à la reprise qu'il avait fait à l'époque Guidon Kremer, avec Horacio Ferrer, encore vivant.
Oui.
Et elle a été très touchée par cette pièce, et c'est pour ça qu'elle a voulu la refaire. Et comme j'avais avant collaboré avec Bruno Bouget, c'est lui qui m'a proposé pour justement répondre à cet enjeu. Et ça a été une grande expérience, ça m'a permis de pouvoir travailler avec des équipes magnifiques et revisiter cette œuvre qui est... C'est tout à fait une œuvre difficile parce qu'elle est complexe et parce qu'elle est chargée d'un moment très très important dans l'histoire du tango, que c'est les années 60-70, non, la pièce est de la fin des années 60, dans un moment où le tango il a beaucoup de mal à renouveler sa communauté et en même temps il y a cette grande naissance d'une vanguardia.
Oui, d'une avant-garde,
voilà,
avec Piazzolla.
Représentée surtout avec Astor Piazzolla, ce qui crée cette sensation de mort du tango, mais en même temps de
renaissance.
De renaissance, ouais. Et cette pièce, justement, c'est une énonciation artistique qui thématise justement cette mort, cette renaissance du tango, dans l'image d'une femme, non, de Maria. et qui nous renvoie à une espèce de constant dans l'histoire du tango, que c'est sa mort et sa renaissance. Que les années 60, ça n'a pas été le seul moment où il y a eu cette perception d'une mort du tango.
Tout à fait.
Et il avait déjà existé, et même encore peut-être on peut parler de ce thème-là. Mais justement, cette mort, elle est toujours reliée à cette renaissance. Et quelque part, c'est une singularité de la culture du tango, non ? Une
oui.
culture qui évoque sa propre mort à plusieurs reprises. Et c'est une culture qui, paradoxalement, elle est très vivante. Hein, parce
oui.
que cette peur de la mort constant, oui. ça fait tenir en vie.
Oui.
Il y a une forme artistique autour de la mort du tango. Il y a peut-être aussi une volonté politique d'affirmation par rapport à la situation de l'Argentine à cette époque-là.
Bon,
une certaine violence dans l'œuvre, même parfois disons, musicalement en tout cas.
Chez Astor Piazzolla, c'est difficile de parler d'engagement politique, mais dans sa création, parce que c'était un homme très particulier. Mais c'est peut-être la dimension politique, c'est plutôt dans l'interprétation qu'on peut faire de ses gestes artistiques. Et là, avec Maria de Buenos Aires, justement, il voulait créer de nouvelles formes, de nouveaux formats, explorer des autres manières de s'exprimer. Et justement, pour ma mise en scène, j'ai voulu m'éloigner complètement de mettre en scène un tango traditionnel,
ouais.
comme il a été plusieurs fois le cas. Pour moi, c'était... pour exagérer un peu, on peut dire une aberration. Mais parce que justement, c'était une œuvre qui voulait révolutionner un peu le tango. Donc, la mettre en scène avec de la danse traditionnelle du tango, c'était un peu une contradiction pour moi.
Oui,
donc, c'est pour ça que j'ai essayé de mettre l'orchestre dans la fosse, mettre les danseurs sur les plateaux et chercher un nouveau langage inspiré du tango, mais un peu au-delà du tango.
Ouais. Magnifique. Alors, sans plus de transition, je vous propose maintenant, chères auditrices, chers auditeurs, d'écouter la Tangata dell'Alba, extrait de Maria de Buenos Aires, l'œuvre d'Astor Piazzolla, des paroles surréalistes d'Orazio Ferrer. Donc, c'est un enregistrement de 1998.
Vous êtes sur Aligre FM. Thank you. de retour sur les ondes d'Aligre FM et dans l'émission Au cœur du tango avec notre invité, un premier portrait de notre invité, puisque Mathias Tripodi, ici présent, reviendra. C'est un danseur, un professeur de tango, un linguiste, un chorégraphe, un artiste dans l'âme aux multiples facettes, un écrivain.
Voilà, et pendant que nous écoutions cet extrait Tangata del Alba de Maria de Buenos Aires, nous nous disions qu'il serait nécessaire de faire une prochaine émission sur cet opéra si important, si particulier
de Piazzolla.
D'Astor Piazzolla, l'unique opéra de l'univers du tango argentin. Mathias Tripodi, nous avons dansé dimanche dernier au Cirque Électrique en compagnie de nombreux artistes. Une soirée encore magnifique, très réussie, très diversifiée, avec une énergie incroyable. Un côté d'ailleurs swing et jazz manouche parfois qui venait investir le tango. C'était vraiment une très belle représentation. Mais je voulais revenir sur un bal que vous avez organisé en novembre dernier, je n'ai plus la date en tête, un bal tout à fait exceptionnel à Paris, puisque comme le disait Nathalie Perrin, c'était un bal consacré à la musique d'Astor Piazzolla, avec un orchestre qui n'a joué que des compositions du grand Astor, et avec une assistance de danseurs recueillis, concentrés et absolument enthousiastes. Donc bravo, ouais. Merci et quelle fantastique idée.
Oui, disons, c'est une idée qui est venue en dialogue avec un autre ami danseur parisien qui maintenant il habite à New York, il s'appelle Alexandre. Et c'était venu une réflexion de est-ce qu'on peut danser sur cette composition, ces œuvres de répertoire de tango qui on dit a priori un peu trop compliquées peut-être pour la danse. Est-ce qu'on peut la danser au pas? Et justement, on avait commencé à cogiter des idées dans ce sens-là. Et il a eu une soirée organisée un peu dans cette ligne à New York, et moi j'ai voulu faire une à Paris. Et bon, j'ai eu la chance de le faire au Cirque Électrique. C'est un magnifique lieu de création, de partage pédagogique, un lieu de résidence, un lieu très vivant qui est ancré dans les 20e arrondissements. C'est un lieu de cirque, du nouveau cirque, du cabaret, qui est très riche avec plusieurs propositions.
Très bel endroit.
C'est une structure, c'est une compagnie, une troupe, on peut dire, qui existe depuis 30 ans et qui est basée depuis quelques années à Port-de-Lilas. Et là, j'ai eu l'occasion d'imaginer plusieurs balles dans une facette d'organisateur, que c'est une nouvelle facette, on va dire, parce que jusqu'à là, j'avais eu un fort lien avec le tango à travers la danse, la réflexion, la danse contemporaine, un peu les dessins aussi, la recherche. Mais depuis quelques temps, surtout après 2019, j'ai commencé d'une manière plus active à essayer de dynamiser des rendez-vous pour partager les tangos, et en faisant attention à partager la rencontre et une expérience inspirée de mon expérience dans les balles à Buenos Aires. Et pour cette balle, voilà, c'était un bal un peu atypique. C'était que sur la musique d'Astor Piazzolla. Donc j'ai invité les Quintetos del Plata, qui est une récente formation avec des musiciens basés à Paris, et la plupart argentins.
On les a beaucoup appréciés. Il y avait une qualité d'interprétation des œuvres de Piazzolla.
Oui,
c'était
et eux,
magnifique.
Eux, ils font le répertoire du quintet, voilà, d'Astor Piazzolla. C'était un peu un défi. J'avais aussi certains peurs, non? Mais
ouais.
En même temps, c'était l'idée d'affirmer une proposition et de réconcilier le monde du bal avec l'œuvre d'Astor Piazzolla, non?
C'était magnifique.
On peut dire qu'à son époque, Astor Piazzolla, il essaye de se dégager du bal. Et nous, des décennies plus tard, on essaye de faire cette réconciliation.
Et tout à fait. Quelle belle réconciliation.
C'était magnifiquement réussi. Ouais. Tu nous as proposé pour illustrer cette séquence donc un extrait de l'orchestre qui était présent ce soir-là, le Quinteto del Plata, dans une œuvre d'Astor Piazzolla, une œuvre tirée des quatre saisons. C'est un titre un peu abrégé, bon, il faudrait peut-être rentrer plus dans le détail d'ailleurs, c'est une œuvre aussi assez fascinante de Piazzolla. Ça correspond à l'été. Verano oui. Porteño.
Tout à fait, bravo.
On l'écoute.
Oui, merci beaucoup. La technique, vous êtes sur Aligre FM 93.1 au cœur du tango. Je disais merci pour voilà, ce magnifique tapis sur cette musique splendide. Verano Porteño, Astor Piazzolla, Quinteto del Plata, hein, Sylvain Berthaud.
Absolument, magnifique. Donc un enregistrement de 2025. On s'est encore promené dans le temps et merci Mathias Tripodi de nous avoir permis toutes ces étapes, tous ces voyages au travers du temps entre Paris et Buenos Aires. Pour conclure, parce que le temps passe très très vite, on a encore beaucoup de facettes de votre activité à découvrir. Une activité de linguiste, on l'a dit, qui s'est étendue finalement à une recherche sur comment écrire la langue si particulière du tango. Comment se porter sur... Alors, est-ce que je parlerai de figure, de chorégraphie, de mouvement dans l'espace? Quelle étrange recherche aussi.
Oui, disons dans cette liane que je mène avec le tango, il y a plusieurs interrogations et le tango aussi revient dans la recherche de résoudre des questions ou des problématiques autres. Non, donc c'est un lien très large qui s'est retranscrit ensuite en plusieurs projets ponctuels, en plusieurs disciplines, dont une, c'était justement imaginer un système pour écrire la danse du tango. Et ce projet, il est parti pas vraiment d'une démarche descriptive ou de l'idée de simplifier ou représenter la danse en elle-même, sinon il est né du le développement d'une métaphore qui existait assez présente dans le milieu du tango quand j'ai commencé à danser au début des années 2000. Et c'était une métaphore particulière pour expliquer les enjeux de la danse et elle nous disait que la danse du tango, c'est un langage. Donc, des métaphores pour comprendre l'enjeu de la danse du tango, il y a eu plusieurs au long de l'histoire du tango. Et on a pensé à l'image de plusieurs champs de l'expérience, ce qui se joue à l'intérieur d'un abrazo dans la piste. Mais voilà, quand j'ai commencé à danser, il y avait cette métaphore du langage. Et moi, en tant qu'étudiant en linguistique, j'ai voulu la développer. Et en développant cette métaphore, cette comparaison implicite entre la danse du tango et le langage, ils sont sortis toute une série de questions. Et une de ces questions, c'était est-ce qu'on pourra écrire cette langue. Donc moi, je me suis plutôt concentré dans ce qui se passe dans l'improvisation et la communication du mouvement dans une danse de tango du bal. Et j'ai voulu, et j'ai commencé à d'abord expliquer un peu cette danse. Et une fois que j'ai senti que j'avais pu expliquer complètement ce qui se passe, j'ai inventé quelques signes pouvoir la représenter. Et c'est comme ça qu'est né ce système qui maintenant, en 2026, il va avoir 10 ans.
Ouais.
Et qui m'a permis aussi de faire de nombreuses expériences. C'est un système qui a été exposé dans les musées des Beaux-Arts et d'archéologie à Besançon récemment. Et que cette année, il va être exposé au musée de Figeac, dans une exposition justement autour de l'écriture. Et c'est un projet voilà, qui m'a permis de faire des collaborations avec l'IRCAM, aussi avec des centres de recherche autour de la danse, et qui nous renvoie aussi quelque part au premier morceau qu'on a écouté dans cette émission, Puente Alsina, car ce système de notation il a été développé en partie grâce à une expérience que j'ai pu faire à Buenos Aires en enseignant le tango à des personnes aveugles. Et dans cette expérience, il y avait justement une femme très âgée qui venait du quartier de Puente Alsina, non? Et qu'il rencontrait les tangos dans ses cours et avec ses souvenirs aussi d'enfance.
C'est très beau, c'est très beau.
Oui,
magnifique. Alors, c'est ce système d'écriture, tu l'as dit, c'est un système de notation, ça se dessine aussi.
Oui, et en fait, j'ai essayé de réduire les possibilités de la danse à deux paramètres très très concrets, le transfert de poids et le changement d'orientation. Et j'ai commencé à représenter ces deux sensations et, pour décrire les éléments les plus... petites, on peut dire, qui ont de la signification dans la danse du tango. Et c'est un système que, voilà, qui m'a permis de commencer à transcrire des pas tout en suivant la logique de transmission du tango à Buenos Aires autour des séquences, que ce sera comme des phrases, non, un peu comme des dictons quelque part à remodeler. Et ce projet d'écriture de mouvement, il m'a permis justement après poser encore de nouvelles questions. Non? Et c'est dans ces nouvelles questions sur lesquelles je travaille actuellement, et en espérant pouvoir vous partager bientôt les résultats de cette recherche.
Oui, imposante recherche. Oui, bien sûr qu'on espère que Mathias Tripodi viendra nous en parler.
Donc ça sera une prochaine thématique, c'est-à-dire ton parcours de chercheur et d'écrivain. Autre aspect, effectivement, on parlait de dessin et de notation dessinée. Tu es aussi un artiste graphique. Nous avons eu l'occasion d'apprécier tes œuvres également. C'est aussi une facette de ton activité de créateur.
Aussi, le dessin, il a été une manière d'y répondre aussi aux souvenirs du tango, aux questionnements autour du tango. Et c'est quelque chose qui a commencé dans les marches de mes cahiers à l'université.
Oui.
Et qui s'est prolongé, il a pris de plus en plus d'ampleur. Et c'est quelque chose qui m'accompagne de manière intermittente. Mais cette recherche au niveau graphique, c'est un espace où je trouve beaucoup de liberté. Et en même temps, ça me permet d'amorcer des réflexions en lien avec le corps, avec nos sensations et avec ce que le tango peut nous permettre aujourd'hui.
Alors Mathias, vous avez choisi comme morceau pour conclure cette émission un morceau qui n'est pas un morceau de tango, qui est un morceau qui peut être lié à la danse effectivement, mais qui est plutôt surprenant venant de vous. C'est un extrait du film Le Roi Danse, un film de Gérard Corbiot qui est sorti en 2000 sur une musique de Lully. Donc là, on est cette fois dans un territoire français et sur une musique très ancienne déjà.
Oui, parce que bon, j'ai choisi ce morceau parce que les liens entre l'Argentine et la France, entre les tangos Paris et Buenos Aires, on les situe beaucoup et dans l'expérience du XXe siècle, parce qu'il y a un certain nombre de faits historiques qui illustrent ces liens et aussi des influences esthétiques. Mais aussi, on peut trouver un plan un peu plus abstrait où la France et l'Argentine ils se retrouvent, où les tangos et la musique baroque ils dialoguent, car il y a tout un ensemble de résonances qu'on peut reconnaître peu à peu entre la période baroque et la musique du tango et la danse du tango. Et justement, écrire la danse en France, ça a donné sur la période baroque les premiers systèmes d'écriture de mouvement de Raoul Auguste Fauillet. Et ça a amorcé ce qui sera plus tard la danse classique. Peut-être, si on arrive à écrire les tangos, on préparera les terrains pour quelque chose pour plus tard.
Magnifique choix. En tout cas, on écoute maintenant la musique de Lully, le ballet d'Alcidiane, donc dans le film de Gérard Corbiot, Le Roi danse.
Et on salue nos auditrices,
merci
nos auditeurs.
Merci pour cette belle rencontre.
Mathias Tripodi d'être venu aujourd'hui. Voilà, premier moment d'un portrait qu'on espère continuer, poursuivre avec vous pour vous faire mieux connaître. On conseille le site de Mathias Tripodi aussi et de venir, de se tenir au courant de tout ce que vous faites et vous reviendrez avec grand plaisir.
Merci beaucoup.
Vous êtes sur Aligre FM, au cœur du tango. Merci à Armand Gury, à la technique.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.